Témoignage de Monsieur Guérin. 25 mars 1994.
Il envoyait des lettres de zone occupée à zone non occupée inversement. Au début, c'était complètement interdit. Et puis, il y a eu les cartes postales interzone, où c'était tout imprimé et il fallait rayer je vais bien ou je vais mal, ou je vais, etc. Alors, à ce moment-là, l'activité au PTT, ça a été surtout d'aider tous les gens, les prisonniers de guerre qui étaient en foule, etc. Et puis alors rapidement, moi j'étais dans un service, c'était un service des bâtiments, et notre principale tâche à ce moment-là était de rétablir les communications interurbaines en France en réparant les câbles à grande distance, puisque vous savez en France, comme c'est toujours, mais à ce moment-là, c'est beaucoup moins développé. Tous les grands circuits étaient sur câbles souterrains. Les câbles souterrains qui, à l'époque, nécessitaient d'être réamplifiés tous les 80-100 km. Et alors, pendant la débâcle, évidemment, les troupes descendantes avaient ou coupé les câbles, ou même fait sauter des stations de répéteurs sur les câbles. Si bien que rapidement, les Allemands ont eu besoin de ces câbles et ont demandé au ministère, donc à la direction d'exploitation, bien sûr, et qui s'est tout de suite rabattu sur le service des bâtiments et des lignes pour faire rétablir les câbles. Alors déjà, à ce moment-là, avec un de mes camarades, un ingénieur, on s'était dit, on va profiter de l'occasion pour relever avec précision non seulement les câbles existants réparés, mais également tous les travaux que les Allemands vont faire sur ces câbles, et en particulier leurs points de concentration, si bien que déjà à ce moment-là, on avait fait un réseau, un annuaire des câbles à destination de l'Anglais. Parce qu'on s'est aperçu que les Anglais, mais là-bas, tous les Français de l'autre côté de l'eau, n'avaient aucun renseignement sur les câbles du tout. C'était pas si développé que maintenant. Alors là, on avait déjà commencé à faire cet état des lieux. Et même à ce moment-là, déjà, un de mes collègues avait commencé, sur le vu de cet annuaire, parce qu'on croyait le débarquement imminent, à faire un plan de coupure des câbles au moment du débarquement. Ce plan ayant pour but d'avoir des gens qui sachent ce qu'ils doivent faire, qui le fassent bien, de façon à ce qu'après on puisse remettre ces câbles en service avec le minimum de frais. Alors c'est à ce moment-là qu'au service des lignes à grande distance, qui était au fond le grand patron de tout ce qui est transmission à grande distance, j'ai fait la connaissance d'une fille qui était au réseau aussi, qui s'appelait Simone Lévy, vous avez dû entendre parler, qui était la secrétaire d'un des ingénieurs responsables de la grande distance. Alors c'est Alvarez et elle, et je ne sais pas comment, mais elle avait déjà un contact avec la CND. Alors, à ce moment-là, on a commencé à se regrouper par des renseignements de regroupement qui nous venaient de Vichy, où il y avait des camarades, et on a fait, à Paris, on a fait un petit état-major, qui s'appelait l'état-major PTT, et qui était en contact, d'une part, avec la CND pour les renseignements, et d'autre part, pour l'action plus directe, avec l'OCM, l'Organisation civile militaire, qui, elle, était très développé déjà dans le nord, le Pas-de-Calais, la Somme, le nord, et la Seine inférieure, qui s'appelle maintenant plus Seine, pratiquement jusqu'au Havre. Et alors, eux aussi avaient des rapports. L'intermédiaire que nous avions avec l'OCM, ça a été d'une part Maxime Bloch-Mascar, qui a fait parler du après, qui était lui plutôt un philosophe. Il voulait écrire déjà la réorganisation de la France après la libération. Il n'a pas été pris très souvent au sérieux, et on a raconté des histoires comme ça après la guerre, au moment où Maxime Bloch-Mascar voulait essayer de se placer, et les gens mal intentionnés avaient dit que dans l'état-major autour du général, OCM, l'ancienne organisation, était devenue, par moquerie, OCM ou KB Max. Et ça. Alors vous voyez donc par conséquent, à ce moment-là, petit à petit, on s'est développé. Il y avait des contacts avec avec la CND, qui était pour d'un côté avec Rémy et avec un certain nombre de gens qui, lui, à ce moment-là, on recevait généralement par l'OCM d'ailleurs, on recevait des questionnaires où Londres lui demandait, et par exemple, je me rappelle, ils ont dit, nous avons appris que les états-majors allemands font des travaux très importants dans la région de... Oui, je me rappelle, lui en particulier. À un moment, ça a été pourquoi ces gens-là, dans la région de Laon, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe? Alors, on avait quelques agents, on envoyait de Paris, puis ils faisaient un rapport qu'après on transmettait. Mais après, ils ont demandé beaucoup de renseignements sur toutes les stations de répéteurs des câbles, puisqu'ils étaient dans le répéteur des câbles. Et on peut reconstituer les réseaux, les faisceaux de circuit, les réseaux, savoir quels sont. Alors à ce moment-là, on avait eu, justement par une question, enfin un hasard bénéfique, j'ai été chargé de. Nous avions à Paris, qui existe toujours d'ailleurs, une très grande station souterraine de connexion des câbles à grande distance. C'était la station de Paris-Saint-Amand, qui d'ailleurs a été refaite. Et c'était une station hyper protégée, une dalle de béton de 3 mètres par-dessus. Et quand c'est moi qui l'avais construit, les travaux n'étaient pas terminés. Et alors j'avais encore à y faire légalement, ce qui fait que j'avais pu relever tous les plans. Et ces plans, alors je les avais remis à Rémy, et qui avait beaucoup de difficultés, parce que ça représentait un certain volume. C'était pas comme maintenant. Maintenant, où les plans de 1 mètre sur 2, vous passez ça en microfiche, tandis qu'à cette époque-là, c'était pas ça du tout. Alors, on avait passé tous les plans, et alors, périodiquement, comme ça, justement, on recevait par des agents de la CND, qui en fait étaient presque tous rattachés à la partie de l'OCM, qui était devenu après, comment ça s'appelait, le NAP. Parce que le NAP, au fond, l'OCM avait beaucoup de rapports dans les ministères, et le NAP, c'était un réseau qui groupait les agents, surtout les agents des agents de l'État, ou les agents des grandes des administrations, les PTT, la SNCF et des choses comme ça. Et alors, à ce moment-là, nous faisions un peu, si vous voulez, la liaison entre l'OCM et le NAP, où il y avait, comment s'appelait-il, un type qui a été ministre à quoi qu'il y avait. Il y avait des types tout à fait remarquables. Mais à ce moment-là, c'était un peu par hasard qu'on apprenait, ça a été une catastrophe, que vous appreniez que tel camarade que vous voyez à l'OCM, mais qui travaillait aussi avec. On a travaillé un peu de façon bouillonne. Après, ça a été beaucoup mieux. On était dans un réseau, on ne s'occupait que de son réseau. On ne connaissait. À ce moment-là, le nombre de gens qui sont venus me trouver, parce que moi, comme j'avais un bureau au ministère des PTT et que je pouvais encore avoir des liaisons, je voyais beaucoup de gens. Et je m'efforçais de ne pas connaître leur nom. Je vois très bien, une fois un homme est venu me trouver, alors notre signal de reconnaissance, c'était qu'il avait été à la Banque de France, ou une banque quelconque, et je m'étais fait donner une liasse de billets de 5 francs. Le billet de 5 francs, c'était une unité à l'époque. Une liasse neuve, où tous les numéros suivent. Alors, c'est pas difficile. Quand je voulais mettre deux personnes en contact, je redonnais à l'un un billet de 5 francs, à l'autre un autre billet qui suivait. C'est quand l'intérêt, c'est que vous êtes arrêté avec un billet de 5 francs, personne ne peut vous dire, il n'y a pas de raison d'avoir un billet de 5 francs. Et alors évidemment, si vous arrêtiez deux personnes, et vous remarquez qu'ils ont deux billets de 5 francs qui suivent, l'un étant à Toulouse et l'autre à Lille, vous pouvez dire, c'est assez curieux. Mais donc, c'est un système qui a très bien fonctionné. Très bien fonctionné, c'était le système qui était à peu près inviolable. Et ça a été bien marché. Alors oui, c'est pour vous dire que c'était mes rapports avec la CND, c'était des gens qui étaient. Moi, j'avais des gens des PTT qui travaillaient avec moi, que j'ai recommandé à la CND. Je ne savais pas, je n'avais aucune raison de suivre ce qui se passait. On m'avait demandé de trouver des agents des PTT à certains points. Il y avait à Bordeaux, à Vannes, etc. Bon, ben, je disais, ben, comment peut-on organiser un rendez-vous? Ben, on finissait par me dire d'une façon à dévoiler, à Vannes, aller voir M. Intel de la part de M. X, etc. Ça ne marchait pas toujours très bien, parce que les gens étaient devenus très méfiants. La CND, comme vous avez vu, peut-être que les agents de la CND n'ont pas été tous arrêtés, mais il y a eu tout de même beaucoup d'arrestations qui ont été ou des imprudences ou ben, le fait que il y avait des gens qui avaient parlé ou les Allemands n'étaient pas complètement idiots et c'était très très. Donc à ce moment-là, vous voyez, moi, mon rôle, puisque on m'avait collé comme chef de l'organisation de résistance des PTT, qui s'appelait à l'époque PTT Libération, non pas Libération. Ce que c'était. Non, ça c'était l'état-major PTT, alors on m'avait dit par la suite ce qui me permettait de les choses. Et à ce moment-là, moi pratiquement, nous pouvions servir de relais, mais côté CND, c'est la CND qui, par l'intermédiaire d'un certain nombre Naples, les types qui étaient à la SNCF ou les anciens de l'armée, des choses comme ça, nous faisaient connaître leur... on nous faisait passer les demandes de renseignements. Et après, ils se chargeaient, quand on les avait rappelés, les renseignements, recueilli les renseignements, se chargeaient de les faire parvenir, à qui de droit, c'est-à-dire à leur correspondre. Et alors, mais en même temps, alors les gens des PDT, on avait continué avec un ingénieur qui est venu après, l'ingénieur général Simon, et qui est juste au moment du débarquement, en Italie, c'est-à-dire en novembre, le débarquement en Italie, c'est novembre 42, c'est la fin de la ligne de démarcation.
Ça c'est en 42, c'est le débarquement de l'Afrique du Nord.
Oui.
Ouais. C'est en débarquement au Maroc, en Algérie.
Ben, c'est pas en novembre.
Ah si, si.
C'est le 11 novembre. Oui, et alors donc, c'est pour vous dire qu'à ce moment-là, Simon, avec qui je travaillais, puisque lui, il était ingénieur en chef aux lignes à grande distance, il avait pris en main l'étude du réseau des Allemands, et il est parti, et son travail a fait les bouffes de ce qu'on a appelé, ce qui s'est appelé, au moment du débarquement, le plan violet, il y avait tous les câbles utilisés par les Allemands, l'endroit où ils seraient coupés, des choses comme ça. Et alors, à ce moment-là, nous avions collaboré avec le plan violet. Et c'est ce plan violet que nous avions déjà transmis beaucoup de renseignements par la CND à Londres. Et puis, juste au moment du débarquement, Simon était en Algérie. Il n'a pas pu revenir. Alors, il a continué à faire son travail. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de surcroît de travail parce que j'avais perdu une liaison. Alors, à ce moment-là, les renseignements que nous pouvions reconnaître, on les passait toujours en priorité par la CND. Et comme vous l'avez lu peut-être dans les bouquins de Rémy, le problème des renseignements, la transmission des renseignements, a toujours été un problème très difficile. Les postes radio étaient peu sûrs, peu nombreux, et peu maniables. C'était des peuples. Un poste, à cette époque-là, un poste émetteur, etc., vous savez comme moi que le transistor n'était pas encore inventé. Et par conséquent, les puissances à consommer sont beaucoup plus grandes, les accus, faut tout. C'était on voit tout le nombre de gens sont fait prendre dans la résistance au cours des transports de postes radio. Et puis, ces postes, on n'avait pas encore mis vraiment au point les régulations des longueurs d'onde par quartz. Et ça arrose. Maintenant, il suffit de voir comment les voitures se parlent les unes aux autres, avec quelques kilohertz d'écart entre deux postes, et puis ça marche parfaitement bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Allemands baladaient avec des grands cadres au-dessus des voitures, ils baladaient dans les rues et on voyait des choses neuves. On était obligé, quand on avait des postes émetteurs dans une rue à Paris, on avait tout autour des agents qui regardaient les voitures, et puis quand on voyait une voiture suspecte qui faisait des écoutes, on prévenait le plus rapidement possible nos exploitants radio pour qu'ils cessent leurs émissions. Vous avez vu que... Et en province, où il n'y en avait pas beaucoup, mais les gens étaient obligés de se déplacer très souvent. Il y avait des gens qui étaient des imprudents ou des héros, mais qui ont voulu les mettre jusqu'au dernier moment. et qui sont fait prendre par la police allemande, les mains dans le sac, c'est-à-dire en train d'émettre. Il y avait des gens, c'est une caisse, et vous verrez ça dans le bouquin, des gens qui sont... Alors, vous voyez, il y avait ce problème, et ce problème, ça a été enclenché parce que côté OCM, là, nous répondions à leurs demandes, soit directement, soit en prévenant nos amis de la CND, mais qui généralement n'avaient pas besoin d'être prévenus par nous. Et quand l'OCM avait besoin pour toute la zone nord de renseignements, ils avaient des rapports directs avec les agents de la CND, parce que les agents de la CND là-bas faisaient du renseignement, et ils étaient beaucoup moins pris que des gens pouvaient l'être, comme les gens comme Espadon ou les gens qui étaient sur place. Espadon s'occupait de ses bateaux, et on lui aurait dit qu'il y avait une division qui était à tel endroit. On aurait dit qu'il y avait des... Oui, ça fait penser qu'à Paz, on leur a dit qu'il y avait des installations de batterie, etc. Et initialement, c'était des marins. Hein. Alors évidemment, les marins, il y avait les bateaux, et puis tout ce qui pouvait aller avec les bateaux, c'est-à-dire les batteries, les batteries d'artillerie qui gardent les côtes, les fontaines, et tout ça. Petit à petit, on avait refusé. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a eu là-bas pratiquement un peu plus tard, mais c'est vers que la mi-42, on a dû avoir à peu près les premiers plans du mur de l'Atlantique. On les a eus, mais je ne connais pas les détails. Enfin, il semble bien que c'est un type qui s'était introduit dans les bureaux de la Gestapo comme peintre. Hein, on cherchait la Gestapo, il a peint ses bureaux. Et il y a eu un plan qui traînait, il l'a pris, et il a eu une trouille, parce que c'est un plan qui était marqué au plan sacré, etc. Et puis je crois que, tout le monde c'est qu'on dit dans les livres, que les Allemands, responsables, ont eu encore plus peur que lui, ils ont pensé que le plan était gardé, etc. Ils ne l'ont pas dit, et c'est là où on a eu vraiment un plan très détaillé du mur de l'Atlantique. Et on avait des documents comme ça à transmettre. Nous, à ce moment-là, avions surtout des renseignements par l'écoute sur les câbles téléphoniques franco-allemands, en particulier sur le câble Paris-Berlin, câble qui passe Paris-Metz et puis plus loin. Et pendant 6 mois, on a eu les renseignements les plus précis, etc., qu'on faisait passer. Et puis voilà ce qui s'est passé. Voilà, à ce moment-là, c'était dans une petite ville, là, du côté à côté, sur le câble entre Paris et la Ferté-Souchoir. On avait loué une maison au bord du câble. Et puis, on avait creusé un souterrain. Et on était venu se brancher sur le câble. Ce qui était fort difficile. Et d'ailleurs, je vous dirais que moi, j'y croyais pas, puisque au départ, quand on m'avait dit ça, mais il est écrit dans les bouquins sur les câbles qu'on ne peut pas faire de dérivation. Et on a fait une dérivation, et pour faire cette dérivation, on a fait un faux dérangement sur le câble. Parce que ces câbles sont suivis au début, à chaque station au bout. Sitôt qu'il y a un défaut sur le câble, c'est signalé, ou c'est perte à la terre, ou c'est câble coupé, c'est signalé. Alors, on a commencé par faire un faux dérangement, et pendant qu'on réparait le faux dérangement, on s'est mis en dérivation sur le câble. Et ça a très bien marché pendant 6 mois. Seulement pour ce faire-là, le général Combeau, qui était un ancien, il n'était pas encore général à cette époque, qui était un ancien de, du génie. L'arme des transmissions n'existait pas à l'époque. C'était le génie transmission, l'ancien 8e génie. Et donc, donc à ce moment-là, oui, on avait trois interprètes. Parce que sur un corps comme ça, sur le Paris-Berlin, il y a 90 quarts, c'est-à-dire en fait 180 circuits qui passent. Alors on est obligé de voir les commutateurs, on écoute ça comme ça, un peu au hasard. On peut pas s'appeler. Au bout d'un certain temps, les gens savent que tel câble est utilisé par les plus hautes autorités. Et seulement, on avait trois interprètes là-bas. Et au bout de quelques temps, la population à côté s'est inquiétée, voir qu'est-ce que c'est que ces gens-là qu'on ne connaît pas, qui vont dans cette maison qui est inhabitée. Et le bruit s'est répandu que c'était des Allemands qui avaient monté des appareils là pour espionner les gens qui écoutaient la radio anglaise. On raconte n'importe quoi. Alors au bout de 6 mois, on a vu que tout de même dans le pays, on commençait à trop parler de cette maison. Alors à ce moment-là, on a décidé d'arrêter l'écoute à ce point-là. Et puis on s'est dit, il y a l'autre câble pour l'Allemagne, qui est le Paris-Strasbourg. Et on a transporté nos installations sur le Paris-Strasbourg. Et alors c'est là où il y avait trop de gens qui connaissaient ou trop de gens qui ont parlé. Et ça a marché 15 jours. Le 16e jour, la Gestapo a cerné le point. Et puis il y a un interprète qui était là qui a été arrêté. Il y a eu type. Les Allemands avaient certes été bien renseignés parce qu'ils sont remontés sur l'équipe qui avait fait le dérangement, qui était l'équipe de Keller. Keller, il était à l'époque un ingénieur des travaux qui était au centre de dérangement des câbles qui était à Paris. Alors, à ce type-là, ce centre avait été très important. Il y avait peu de dérangements sur les câbles, il n'y en avait pas beaucoup de matériel, et pratiquement, ils étaient capables d'intervenir sur les 2/3 de la France. Et alors, évidemment, Keller et son équipe qui avaient fait le dérangement, qui avaient fait le branchement, ils ont été arrêtés la veille de Noël, et puis, il n'y avait aucun doute, ils n'ont pas pu s'en sortir. Keller, lui, a été déporté et il serait mort, enfin on sait aussi, on sait exactement, il est mort au camp d'Oranienbourg. Il avait trois hommes dans son équipe, dont le dernier, Lobro, est mort il y a un an à peu près. J'avais vu Lobro. Par contre, il y en avait deux autres qui... Guillou et Matron, qui étaient morts en déportation. Mais qu'il restait que Lobro qui était au courant, et puis alors, il y avait les gens qui avaient participé à l'élaboration. Il y avait Combo, il y avait Lebedinsky, qui était un directeur technique à LTT, et qui était en rapport constant avec les services d'études du ministère des PTT, la vie d'études et de recherche, et c'est lui qui avait fourni les principaux appareils pour faire l'écoute sur le camp. Ces appareils-là n'avaient rien de secret, mais enfin, c'était du matériel qu'on ne se procurait pas facilement sur la place du marché. Et alors à ce moment-là, c'est à ce moment-là où ça a commencé. Alors donc là, on a été privé de cette source, mais à ce moment-là, on était mieux organisé et on avait reporté au lieu de porter l'écoute au centre, sur le centre, c'est-à-dire sur Paris, on avait pu monter en province des postes d'écoute qui nous donnaient des renseignements peut-être moins fondamentaux, mais qui étaient tout de même beaucoup plus sûrs et faciles à exploiter. Vous comprenez, des renseignements sur le câble Paris-Berlin, où, comme je vous disais, il y avait 150 circuits, qui étaient difficiles, tandis que si vous allez maintenant, si vous avez pouvé apprendre des renseignements sur un câble qui va de Dieppe à Étretat, c'est beaucoup plus facile à situer. Mais il y avait toujours le problème de tous ces renseignements. Il fallait les transmettre. Alors on avait toujours la voie par la CND et par un des adjoints de comment s'appelle-t-elle ?